Bien, merci pour votre patience. Donc, nous allons parler des ressources cognitives en production du langage. Alors, lorsqu'on parle de ressources, on a plusieurs façons de le faire. Il peut s'agir en fait des moyens de traitement qui sont nécessaires pour réaliser une activité cognitive de manière optimale. Mais lorsqu'on parle également de ressources cognitives, il peut s'agir du fait que les moyens eux-mêmes requièrent plus ou moins d'attention, d'énergie mentale. Alors, il existe différentes métaphores en psychologie cognitive pour parler de l'attention, mais nous nous focalisons ici uniquement sur l'attention dans le cadre de la production du langage. Alors, quelques généralités sur le langage. La production du langage à l'oral est sans doute l'une de nos activités préférées, à tel point que des chercheurs ont jusqu'à été à affirmer que nous avions une véritable addiction à la parole. Et en effet, il n'y a pas d'autre habileté cognitive autant pratiquée que la production à l'oral. Et des estimations récentes indiquent que les adultes produisent quelque 16 000 mots par jour. Mais il existe des différences interindividuelles importantes. Et contrairement à une idée reçue, les femmes ne sont pas plus bavardes que les hommes. Donc, ce ne sont pas de véritables pipelettes, comme on l'entend dire ici ou là. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a une petite différence, mais elle n'est pas, comme on dit, statistiquement significative. En fait, sur 15% sur l'échantillon de l'étude de Mel et collègues en 2007, sur les 15% les plus bavards, il y a autant d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, sur l'étude, la personne la plus bavarde, eh bien, c'est un homme. Alors, la production à l'oral est de plus une activité relativement bien maîtrisée chez les adultes, car les erreurs, les fameux lapsus, sont peu fréquentes. Il n'y a pas plus d'un ou deux lapsus pour 1000 mots produits. Donc, notre moulin à parole est relativement efficace eu égard à la quantité impressionnante de mots que nous produisons par jour. Par comparaison, la production à l'écrit, eh bien, elle est beaucoup moins pratiquée, même si les SMS, les emails sont de plus en plus nombreux dans nos sociétés. La production verbale écrite, elle est jugée difficile. En effet, 45% des étudiants, selon une étude, la jugent comme douloureuse. Et parmi eux, il y en a même 10% qui ressentent un véritable blocage lorsqu'ils doivent produire à l'écrit. En plus, à l'écrit se pose l'épineux problème de la maîtrise de l'orthographe, et notamment pour le français qui, comme chacun sait, est un système relativement opaque. Alors, nous allons aborder la question des ressources en production du langage, d'abord en nous centrant sur la production de discours de texte, ce que j'ai appelé les aspects macroscopiques. Alors, parler est une activité coûteuse, comme en attestent des données expérimentales issues du paradigme de la double tâche. Alors, dans cette technique, des participants réalisent deux tâches en même temps, T1, T2. Une idée est que si une tâche puise beaucoup de ressources au sein d'un réservoir limité en attention, eh bien, il en reste moins pour réaliser l'autre tâche en parallèle, de sorte que cette dernière est réalisée de manière moins optimale que si elle était conduite de façon isolée. Alors, nous allons illustrer le fait que parler est une activité nécessiteuse en ressources, en énergie mentale, en attention. Alors, dans une étude, des participants devaient s'exprimer à l'oral tout en conduisant une automobile. Alors, ça a été fait à l'aide d'un simulateur de conduite automobile. C'est une expérience faite dans le cadre d'un laboratoire. Les analyses menées sur différents paramètres de la conduite automobile avaient montré, entre autres choses, que les participants conduisaient moins vite et étaient mieux centrés sur la route lorsqu'ils racontaient en parallèle une histoire que lorsqu'ils ne faisaient que conduire. Mais s'il y a un danger et qu'il faut y réagir très vite, les temps de réaction, par exemple pour freiner, sont allongés. Si parler était une activité peu nécessiteuse en ressources attentionnelles, la conduite automobile n'en serait aucunement affectée ou peu affectée, ce qui n'est pas le cas. Une autre illustration, de nos jours, de plus en plus de personnes conversent à l'aide de téléphones portables. Alors, dans une telle situation, il a été montré que l'attention des individus était parfois tellement accaparée, j'en bafouille, que des événements inattendus et baroques qui se produisaient dans leur environnement immédiat n'étaient même pas remarqués. Dans une étude de terrain, vous aviez des observateurs qui étaient placés à différents endroits d'un square où un clown faisait du monocycle. Eh bien, il est apparu que 75% des individus qui étaient en pleine conversation téléphonique n'avaient pas remarqué le clown, alors que ceux qui se promenaient tout seuls, 51% de ceux qui se promenaient tout seuls l'avaient remarqué, de même que ceux qui écoutaient de la musique à l'aide d'un appareil électronique, 61% d'entre eux l'avaient remarqué. Alors, toute production de langage débute par un processus fondamental qu'on appelle la conceptualisation. Alors, à partir d'une intention de communication, il s'agit de définir le contenu d'un message, à qui il est adressé, les destinataires, et la manière dont on souhaite s'adresser aux destinataires. La conceptualisation est le processus en fait le moins automatisé, ou autrement dit le plus coûteux de tous les autres processus en jeu dans la production du langage. La difficulté qui est associée à la planification du contenu d'un message explique en partie l'occurrence de moments d'arrêt dans l'émission de la parole, les pauses en fait qu'on appelle silencieuses, et les hésitations, comme par exemple les pauses pleines. Les paramètres de la situation d'énonciation pèsent sur le processus de conceptualisation, comme le type de destinataire, le type de contenu à transmettre, mais la mise en forme langagière, elle aussi, nécessite des ressources et elle est sensible à ces mêmes paramètres. Justement, il a été clairement mis en évidence, dans le cas de la production verbale écrite, que la connaissance du thème sur lequel nous communiquons a un impact sur la gestion des ressources. Alors, comme pour l'oral, la production verbale écrite de texte nécessite trois processus majeurs, la planification, la transcription et la révision. Dans une recherche, des étudiants rédigeaient un texte sur un thème qui était soit connu, c'est-à-dire pour lequel ils avaient des connaissances, ou un thème moins familier. En fait, les participants réalisaient trois tâches, plus ou moins en parallèle. Ils rédigeaient un texte, puis, de façon intempestive, survenaient des bips sonores. Et ils devaient y réagir le plus vite possible en appuyant sur un bouton, le bouton d'une souris. Puis, immédiatement après avoir arrêté le bip, ils devaient catégoriser leur activité au moment du bip. Est-ce qu'ils étaient en train de mettre en forme? Est-ce qu'ils planifiaient la suite du texte? Est-ce qu'ils révisaient ou toute autre chose? L'effort cognitif était donc mesuré en analysant la vitesse de réaction au bip. L'idée est que plus un processus rédactionnel accapare de l'attention, de l'énergie mentale au moment du bip, moins la réaction au bip, à la tâche secondaire, va être rapide. Je résume les principaux résultats. Il est apparu que de la première à la dernière phase de la rédaction, le temps consacré à la planification du contenu diminuait, tandis qu'augmentait le temps consacré à la révision, relativement attendu. Mais la moitié du temps, durant toutes les phases de la rédaction, restait consacrée à la mise en forme langagière. Plus intéressant, et c'est ce que montre en fait cette diapositive, le patron d'effort cognitif, c'est-à-dire la vitesse de réaction au bip, en fait, elle était constante durant toutes les phases de la rédaction. C'est-à-dire que, en fait, que les participants connaissent ou non le thème, on voit que le patron de résultat est le même, le patron d'interférence, le patron de réaction est le même. Mais ceux qui ont des connaissances sur le thème consacrent globalement moins d'énergie mentale à tous les processus. Nous allons maintenant aborder les aspects que j'ai qualifiés microscopiques de la production. La production du langage est également étudiée à un niveau microscopique. C'est d'ailleurs là que j'effectue mes recherches. Comme énoncé par le psycholinguiste Balota, le mot est central en psycholinguistique, dans ma discipline, tout comme l'est la cellule en biologie. L'accès aux mots et le choix des mots sont des mécanismes fondamentaux de la production du langage. Et en fait, les mots sont fabriqués en temps réel à partir de différentes unités de représentation par le cerveau. Alors, quels sont justement les moyens, autrement dit les ressources, qui sont requises pour fabriquer les mots. Pour prendre une analogie avec une recette de cuisine, quels sont les ingrédients de la fabrique des mots ? Un aspect qui est bien établi dans notre domaine, c'est que les mots ne sont pas prêts à l'emploi lorsqu'on souhaite communiquer une idée. Autrement dit, les mots ne sont pas cueillis dans le jardin cérébral des mots pour prendre une formule poétique. Alors, comme déjà dit, le point de départ de toute communication relève de ce qu'on appelle la conceptualisation. À ce niveau, le concept qu'on souhaite communiquer est activé, comme par exemple le concept de chien. Puis, d'autres concepts sont activés en parallèle, les concepts qui sont associés, comme chat ou aboyer. Cette activation va permettre celle d'autres types d'unités qui sont nécessaires pour fabriquer les mots. Ainsi, des unités qu'on appelle dans notre jargon des lemmas, qui sont relatives à la catégorie syntaxique du mot et à son genre grammatical, sont activées préalablement à des informations qui correspondent au phonème et à la prosodie du mot. On parle dans notre jargon de lexème. Enfin, les informations lexémiques vont être utilisées pour créer des syllabes, des gestes articulatoires, et c'est ça, en fait, que l'appareil exécute. Ce sont des syllabes. Alors, des études conduites sur le mot sur le bout de la langue attestent que dans un tel état, des informations conceptuelles sont disponibles, car on sait pertinemment, quand on est dans cet état, ce que l'on veut dire. Des informations sur le genre et la catégorie grammaticale sont aussi disponibles. En effet, si on sollicite un individu en état de mot sur le bout de la langue, si on lui demande « est-ce que c'est un nom ? Est-ce qu'il est féminin ?», il est capable de répondre correctement. En revanche, ce qui fait défaut, c'est la sonorité. L'intégralité des informations sonores fait défaut, de sorte que le mot ne peut pas être articulé complètement. La fabrique des mots étant systématique lors de la production du langage, et comme nous en avons une pratique intense, eh bien, une telle construction ne semble a priori que nécessiter peu d'efforts, sauf justement dans les cas de mots sur le bout de la langue. Mais ces états sont peu fréquents chez un adulte jeune. C'est en moyenne un état de mots sur le bout de la langue par semaine. En vieillissant, mauvaise nouvelle, ça double. Cela tient aussi au fait, nous n'avons pas conscience, parce que les mécanismes qui sont impliqués dans la fabrique des mots sont extrêmement rapides. Un parleur moyen produit environ 3 mots par seconde. Et lorsqu'un adulte produit un mot à partir, oralement, à partir de la présentation d'une image, bien les vitesses de dénomination se situent dans l'intervalle 600-1200 millisecondes. Et la sélection lexicale, c'est-à-dire le choix du mot, il intervient dans les 300 millisecondes qui suivent la présentation de l'image. C'est donc extrêmement rapide. Alors, le choix des mots est cognitivement coûteux, comme le montre une recherche. Alors, une étude a montré que le nombre d'hésitations, par minute, au sein des conférences variait en fonction des disciplines académiques. Comme vous pouvez le voir, au-dessus, c'est le graphique au-dessus, en bleu. Les pauses pleines, les par minute, sont moins nombreuses, les pauses, en mathématiques qu'en chimie et biologie, qu'en sociologie, histoire de l'art ou littérature. Alors, est-ce que c'est parce que les orateurs sont plus hésitants, ils ont moins d'entraînement ? Non. Cela tient au fait que les options lexicales sont plus nombreuses dans les disciplines dites littéraires que dans celles scientifiques, et non à des caractéristiques personnelles des orateurs. Pourquoi ? Parce que dans des interviews non disciplinaires, comme vous pouvez le voir, c'est la seconde figure, et c'est en vert. Vous pouvez vous rendre compte que dans des interviews non disciplinaires, en fait, le nombre d'hésitations reste stable. Donc, le choix des mots, comme je l'ai illustré, est cognitivement coûteux. Alors, dernière illustration expérimentale, c'est une expérience qui a été faite dans le cadre de la dénomination de mots à partir d'images. C'est clairement une tâche de laboratoire. Donc, on mesure des vitesses de réaction. La vitesse avec laquelle les gens produisent le nom lorsqu'on présente une image sur un écran d'ordinateur. Donc, cette étude montre que Le choix des mots nécessite de l'énergie mentale, même si on n'en a pas conscience. Dans cette étude, donc, des participants devaient dénommer une image le plus rapidement possible. Par exemple, l'image d'un lit. L'image était précédée d'une phrase porteuse, inductrice. Par exemple, juste avant de voir l'image, il y avait la phrase « Paul était fatigué, alors il alla au lit ». Donc on anticipe facilement le nom de l'image dans cette situation. Dans une autre condition, on avait une phrase neutre. Vous allez voir apparaître l'image d'un lit. Et là encore, le participant donc, doit produire le plus vite possible le mot associé à l'image, lit. L'idée était que la sélection lexicale serait facilitée avec des phrases dites biaisées par rapport à des phrases neutres. Mais, bon, plus intéressant dans cette expérience, en parallèle, les participants entendaient des sons qui survenaient quelques millisecondes après le début de la présentation de l'image. Et ils devaient, à l'aide de boutons réponse, catégoriser la hauteur du son, la hauteur tonale, le plus vite possible, là encore. Donc bon, ce sont des tâches de laboratoire, les participants arrivent à le faire. Ce n'est pas infaisable hein, comme tâche. Il y a un petit entraînement avant, bien sûr. Alors, comme attendu, les vitesses de dénomination étaient plus courtes après le traitement d'une phrase biaisée qu'après celui d'une phrase neutre. Mais ça, c'était attendu, et ce n'est pas spécialement le résultat le plus intéressant. Mais le plus important, le plus intéressant, c'est que, en accord avec l'hypothèse d'un coût cognitif lié au choix des mots, la difficulté relative de sélection lexicale, elle se reportait sur les temps, de discrimination des sons. Cela montre que le choix des mots est cognitivement coûteux, parce que s'il n'était pas cognitivement coûteux, ce choix, ça ne devrait pas se reporter sur les temps de catégorisation. Alors, j'arrive au terme donc, de mon exposé sur les ressources dans le cadre de la production du langage. Donc, je n'ai fait qu'esquisser un certain nombre de problèmes qui se posent sur cette question dans le cadre de la production du langage. Il est clair que produire du langage nécessite d'importantes ressources cognitives à un niveau macroscopique, c'est-à-dire lors de la production de discours de texte, mais aussi à un niveau microscopique, j'insiste, lors de la fabrique des mots par le cerveau. En guise d'ouverture, si vous voulez, pour terminer, est-il correct de dire, parce qu'on l'entend ici ou là, que les ressources de notre cerveau sont sous-exploitées ? Est-ce que vraiment on n'utilise que 10% de son cerveau, comme 90% des individus sont enclins à le croire ? Une telle affirmation provient sans doute d'interprétations erronées de paroles qui ont pu être émises par différentes personnalités, parmi lesquelles Albert Einstein. 10% de la masse de notre cerveau, ça correspond grosso modo à celle d'un cerveau de mouton. Alors, un cerveau de mouton est suffisant ? En fait, les études d'imagerie médicale, par résonance magnétique fonctionnelle ou avec des micro-électrodes implantées n'ont pas révélé d'aire silencieuse, ce qui devrait être clairement le cas avec 90% d'inoccupation du territoire cérébral. Donc, les 10% d'utilisation de notre cerveau relèvent clairement de la mythologie scientifique. C'est un oxymore, mais nous avons de la mythologie scientifique. Alors, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir consacré des ressources cognitives à m'écouter. Merci.
Alors, moi, j'ai une petite question, tant que mon collègue branche le micro. Est-ce qu'on diminue notre coût cognitif quand on est entraîné ? Autrement dit, est-ce qu'un enseignant, ça demande moins d'efforts de parler qu'à une personne dont on ne sait pas le métier ?
Sur le choix des mots, de toute manière, il y a un certain coût. Il est vrai que nous, en tant qu'enseignants, on pratique, donc on a certainement un bénéfice dû à la pratique, mais il y a quelque chose d'incompressible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà, de toute manière, d'un certain coût. Il y a toujours un coût. Et les adultes qui sont testés dans les expériences ne sont pas des adultes tout venant. En général, ce sont des étudiants à différents niveaux. Donc, ce sont des gens, ils ne parlent pas beaucoup, c'est vrai, en cours, on ne les entend pas bien, donc ils n'ont pas la pratique que nous, on a. Mais néanmoins, ce ne sont pas non plus des gens qui sont sans aucune pratique et qui ont un problème au niveau de la maîtrise de la langue sérieux, un problème sérieux, j'entends. Je parle de l'oral. Hein. Pour l'orthographe, c'est une autre histoire.
Une autre question ?
Oui. Quel lien y a-t-il ici, sur votre droite ?
Oui, pardon.
Quel lien y a-t-il entre le processus que vous décrivez dans la formation des mots et la mémoire ?
Ah ben, en fait, c'est un lien très, très clair, hein, c'est-à-dire c'est de la mémoire lexicale. C'est-à-dire, je ne travaille pas à strictement parler sur la mémoire, hein, parce qu'il y a des collègues qui sont sur la mémoire, et en plus, il y a une fragmentation au niveau des recherches très importante, de sorte qu'il y a des gens qui travaillent sur la mémoire de travail, il y a des gens qui travaillent sur la mémoire épisodique, la mémoire sémantique. Moi, je ne me qualifie pas comme quelqu'un qui travaille sur la mémoire, je me qualifie comme quelqu'un qui utilise les connaissances de mes collègues, hein, qui travaillent clairement sur la mémoire et l'organisation de la mémoire lexicale. Donc, j'ai besoin, en fait, bien évidemment, de faire référence aux travaux sur la mémoire conceptuelle, la mémoire sémantique, également les travaux sur la mémoire des mots. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus de transformation, c'est-à-dire comment on passe d'un concept aux mots et à la réalisation effective. Comment s'effectue cette transformation ? Quelles unités on utilise ? Quand ? À quel moment ? Est-ce que ça coûte de l'énergie ? Voilà le type de recherche que je fais. Mais clairement, hein, c'est absolument pas incompatible avec la mémoire. Ça rentre, c'est d'une certaine manière. Quand je parle de choix des mots et d'accès au lexique, c'est bien évidemment par rapport à la mémoire. On va choisir dans une mémoire.
Alors, il y a encore deux questions. Puis, si on peut les faire court pour qu'on puisse aller manger, s'il vous plaît.
Je sais pas si c'est où. Oui.
Désolée. On va peut-être laisser le monsieur s'exprimer d'abord. Merci.
Vous avez dit au début qu'il y avait des différences entre personnes dans le flow, finalement. Est-ce que ces différences ont des conséquences dans les performances de transformation ?
Des conséquences ?
En termes de performance, est-ce que les gens qui parlent beaucoup font moins d'erreurs ?
Alors, on sait par exemple que chez l'enfant, la richesse du vocabulaire est un prédicteur très fort de la réussite scolaire. Après, chez les adultes qui sont testés là, non. Le niveau cognitif est stabilisé et je ne pense pas en fait, qu'on observe la même corrélation que celle qu'on observe chez les enfants. Mais ça mérite qu'on y regarde de près. En tous les cas, les auteurs de l'étude ne sont pas posés ce genre de questions.
Dernière question.
C'est une question sur la nature des images que vous présentez.
Oui.
C'est pas du tout, c'est jamais des images artistiques, et je crois que ça pourrait être intéressant de se poser cette question des images artistiques. Oui. Et en fait, quand vous avez votre tâche sur une phrase et puis ensuite une image, c'est le système qui est assez connu, qui est celui du rébus, en fait, qui introduit.
Bien sûr. Je suis
historienne de l'art, et alors la question qu'on se pose, on est en train de développer une recherche sur le silence.
Oui.
Et justement, quand vous parlez de toutes ces conjonctions de tâches, je trouve que ça, en fait, c'est plus une suggestion. Ça serait vraiment intéressant de voir aussi comment ça se passe face aux.
Alors, la raison pour laquelle on utilise des images qui sont assez, on va dire, elles sont en noir et blanc, elles peuvent être en couleur, elles sont pas très attractives, elles sont pas artistiques, on va dire. La raison pour laquelle les chercheurs font ça, c'est parce que on veut utiliser les mêmes sources. Faire produire les individus à partir des mêmes bases de données. Elles sont standardisées, ces bases. On recueille des normes pour savoir, par exemple, si les gens s'accordent pour donner le même nom, la complexité visuelle de l'image, est-ce que le concept qui est dénoté est familier ou non. Et ça, les images, en fait, elles ont initialement été testées par des auteurs américains, et puis elles ont été testées dans plein de langues différentes. On utilise, en fait, ces mêmes images de manière à ce que les résultats d'une étude à l'autre, d'un pays à l'autre, puissent ne pas s'interpréter en termes de caractéristiques des stimuli, mais en termes de mécanismes plutôt. Mais c'est intéressant, en effet. Après, on peut se demander, avec des scènes, lorsqu'on perçoit, par exemple, je vois là, c'est une scène de la réalité, chaise, quand je produis chaise à partir de cette réalité, c'est pas tout à fait la même chose quand je perçois une chaise à partir d'un dessin que je dis le mot chaise.
Oui, bien, merci beaucoup. Alors, on se donne rendez-vous, ça va être un peu court, donc on se...